Bonjour. Bienvenue sur Éducation Vision pour de nouveaux points de vue inspirants et novateurs en matière d'éducation. Aujourd'hui, nous vous présentons un livre de Jacques Attali, homme politique et écrivain français. C'est un ouvrage de 472 pages, intitulé « Histoire et avenir de l'éducation » et qui a été publié en France en 2022. La principale question abordée dans cet ouvrage est la suivante : à quoi pourrait ressembler l'éducation dans le monde à la fin du XXIe siècle ? Mais d'abord, commençons par présenter l'auteur. Qui est Jacques Attali ?
Jacques Attali est né en 1943. Il a été formé dans deux des plus prestigieuses grandes écoles françaises, l'École Polytechnique et l'École Nationale d'Administration. Il est aussi docteur en sciences économiques. Entre 1981 et 1991, il a été le conseiller spécial du président socialiste français François Mitterrand. Puis de 1991 à 1993, il a dirigé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, essais et romans notamment.
Que nous apprend son livre ?
Dans Histoire et avenir de l'éducation, Jacques Attali cherche à éclairer les futurs possibles des systèmes éducatifs dans le monde d'ici la fin du XXIe siècle. Y aura-t-il un corpus universel enseigné à tous les enfants du monde ? Qui transmettra les savoirs ? Les entreprises ? Les associations ? Les réseaux sociaux ? Et aussi, autres exemples de questions, les outils numériques remplaceront-ils l'école ? L'école sans mur deviendra-t-elle la norme ? Jacques Attali considère que pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre l'histoire de la transmission des savoirs et des cultures depuis l'aube de l'humanité. Le livre s'organise dès lors en deux parties.
La première partie porte donc sur l'histoire de l'éducation ?
En effet. Dans la première partie, qui couvre les chapitres 1 à 6, l'auteur propose une synthèse des principales étapes qui ont façonné l'organisation de la transmission des savoirs depuis l'origine de l'humanité. Jacques Attali part de la transmission au paléolithique archaïque et au paléolithique inférieur, c'est-à-dire pendant la période allant de 3,3 millions d'années avant notre ère jusqu'à 350 000 ans avant notre ère. C'est la période qui précède l'apparition du langage humain. L'auteur avance que la transmission est, à cette époque-là, fondée sur l'exemple, l'imitation, l'approbation ou la désapprobation, le grognement, le cri et la sanction. L'auteur caractérise ensuite la transmission au paléolithique moyen et au paléolithique supérieur, c'est-à-dire au cours de la période allant de 350 000 ans avant notre ère jusqu'à 10 000 ans avant notre ère. C'est la période pendant laquelle apparaît le langage humain. Pendant cette période, la division du travail s'installe. Par conséquent, la transmission des savoirs et de la culture se spécialise. Elle porte sur les connaissances spécifiques nécessaires à la transmission du métier qu'exercent les membres de la famille ou du clan. Au néolithique, entre 10 000 et 2 000 avant notre ère, les populations se sédentarisent. L'agriculture puis l'élevage se mettent en place. Pour gérer ces nouvelles activités, constituer des réserves et tenir des comptes, les premiers systèmes de numération puis d'écriture sont inventés. L'écriture s'appuie sur des symboles, pas encore sur des alphabets, et s'effectue sur tablettes et papyrus. Les précepteurs apparaissent, chargés d'enseigner aux enfants des élites. À l'âge du bronze et à l'âge du fer, c'est-à-dire d'environ 2000 avant notre ère jusqu'à la fin du premier siècle de notre ère, la transmission ne s'effectue plus seulement au sein de la famille ou du clan, dans les champs et les ateliers. Apparaissent en Mésopotamie, en Égypte, en Inde et en Chine, les premières écoles, qu'on appelle, suivant la région, maison de vie, ou maison des enseignants, ou maison d'études, et qui sont réservées aux élites. Les premiers alphabets apparaissent à ce moment-là. À partir de 210 avant notre ère, l'usage du parchemin se développe en Égypte, élargissant la gamme des supports de l'écriture. En Judée, vers l'an 100 avant notre ère, les autorités instituent l'école obligatoire universelle, où l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la Torah est imposé à tous les membres de la société, hommes et femmes. Au cours des deux premiers siècles de notre ère, le codex apparaît à Rome et le papier en Chine. Entre le 3e et le 15e siècle, l'expansion du christianisme, puis celle de l'islam, affecte l'école, dans la mesure où chaque grande religion cherche à contrôler l'éducation dans sa zone d'influence. À partir du milieu du 15e siècle, l'imprimerie, dont les principes étaient déjà connus depuis le 10e siècle en Chine, se généralise. En Europe, l'imprimerie favorise la diffusion de la Bible et l'essor de la réforme protestante. De nouvelles écoles, protestante mais aussi laïque, se créant de l'emprise de l'Église catholique. Ces nouvelles écoles sont soutenues, régies et financées par les pouvoirs publics. L'enseignement dans ces nouvelles écoles ne se fait plus nécessairement en latin mais plutôt en langue locale. Les contenus d'enseignement s'ouvrent à des disciplines nouvelles correspondant aux besoins économiques, tels que la comptabilité, la gestion, le commerce, les métiers. Les premières universités modernes se mettent en place. Pendant la même période, l'idée de scolarisation universelle gagne en influence, visant la scolarisation obligatoire des filles et garçons de toute la société, et non plus seulement la scolarisation des garçons de l'élite et des futurs clercs de l'Église. L'obligation scolaire se concrétisera progressivement à partir de la révolution industrielle, dans la mesure où la multiplication des besoins en compétences techniques et scientifiques la rendra désormais indispensable. Du XVIe au XXe siècle, différentes régions du monde sont confrontées à ce double défi du desserrement de la mainmise de la religion sur l'école et de la démocratisation de l'éducation en fonction des besoins du développement économique. Chaque pays aborde ces problématiques à sa façon, suivant sa propre histoire, à son rythme, en fonction de son contexte et de ses contraintes. Au chapitre 6 de l'ouvrage, l'auteur illustre quelques-unes de ces évolutions nationales par des zooms sur une trentaine de pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Depuis le XXe siècle, l'école et les systèmes éducatifs doivent en outre composer avec deux tendances supplémentaires. D'une part, l'irruption de nouveaux médias qui viennent concurrencer et renouveler les modes de transmission, la radio à partir des années 1920, la télévision dans les années 60, l'informatique et Internet depuis les années 1990, les réseaux sociaux depuis les années 2000. D'autre part, l'émergence d'institutions internationales qui cherchent à comparer, étalonner, influencer et orienter l'évolution des systèmes et pratiques éducatives au niveau mondial, l'auteur cite le Bureau international de l'éducation créé en 1925 et l'UNESCO créé en 1945. On pourrait rajouter dans ce registre l'OCDE, la Banque mondiale, les évaluations internationales telles que PISA ou TIM et les classements internationaux des établissements d'enseignement supérieur.
Qu'en est-il maintenant de la partie prospective du livre ?
La vision prospective de l'ouvrage est présentée au chapitre 7. Pour Jacques Attali, il s'agit à ce stade d'anticiper les contours et le contexte de l'éducation dans les toutes prochaines décennies, pour une population mondiale qui devrait, selon lui, dépasser les 9 milliards d'habitants en 2050. Mais les évolutions démographiques seront contrastées. Alors que les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient seront encore en croissance démographique au moins jusqu'en 2050, la population stagnera ou diminuera partout ailleurs. Là où la démographie continuera à croître, il faudra davantage d'infrastructures éducatives et de personnel qualifié. Jacques Attali estime que pour réaliser les investissements nécessaires, la croissance économique devra, en moyenne, dépasser 4% par pays et par an jusqu'à 2050. Ou alors, il faudra multiplier par deux la part de la richesse nationale consacrée à l'éducation. Or, il lui apparaît impossible que l'une ou l'autre de ces deux conditions puisse être remplie. D'où trois scénarios possibles.
Quels sont ces scénarios ?
Le premier scénario, que Jacques Attali appelle la barbarie de l'ignorance, est celui de l'effondrement des systèmes éducatifs publics. Dans les pays en croissance démographique, l'effondrement résultera du manque de ressources. Dans le même temps, les pays dont la population stagne devront faire face à des défis tels que le maintien du personnel dans les métiers de l'enseignement et la mise à jour de leurs systèmes éducatifs pour répondre à l'évolution des besoins et des attentes des nouvelles générations d'apprenants. Les systèmes d'éducation publique seront donc menacés dans les deux groupes de pays. Les pays développés, engagés dans des efforts pour relever leurs propres défis, pourraient ne pas être en mesure de contribuer autant que nécessaire aux investissements éducatifs requis dans les pays en croissance démographique. Selon l'auteur, dans de nombreux pays, l'éducation retomberait alors, comme au cours des millénaires passés, sous l'influence, le plus souvent, de la famille et de groupes privés, religieux, économiques ou politiques. Au moins un tiers de l'humanité ne saura ni lire, ni écrire, ni compter. La démocratie reculera. Il y aura victoire généralisée des populistes. La civilisation s'effondrera. Le second scénario, que l'auteur appelle barbarie de l'artefact, est celui d'un changement radical des outils de transmission. Il peut s'agir d'une échappatoire pour les pays confrontés au manque de ressources et d'un choix délibéré rendu possible par le progrès technologique pour les autres. L'école sera remplacée par des outils d'enseignement à distance qui donnent à chacun accès à tous les savoirs. Toute la gamme des technologies possibles sera mobilisée, c'est-à-dire non seulement le téléenseignement, mais aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les prothèses neuronales directement branchées sur le cerveau de l'apprenant, le cerveau artificiel et les prothèses génétiques. Pour l'auteur, La conséquence en sera que certaines zones du cerveau activées par les apprentissages traditionnels ne seront plus sollicitées. Les humains ne communiqueront plus que par l'intermédiaire des machines. Les prothèses génétiques favoriseront l'eugénisme. Les nouvelles technologies constitueront un outil exceptionnel pour les régimes totalitaires. L'être humain sera transformé en objet, en artefact. Le troisième scénario, enfin, est dénommé scénario de l'homo hypersapien et de l'hyperconscience collective. Ce scénario, qui est celui que l'auteur appelle de ses vœux, propose à l'humanité de faire évoluer ses systèmes d'éducation en s'appuyant sur plusieurs principes. Garantir à chaque individu, partout dans le monde, le droit et les moyens matériels et financiers d'être en études ou en formation jusqu'à l'âge de 23 ans, âge que l'auteur juge être celui de la fin des études supérieures. Jacques Attali précise cependant qu'il faudra ne jamais rémunérer celui ou celle qui refuse d'apprendre. Parmi les valeurs à transmettre, inclure notamment le respect des tabous, le refus du conformisme, la bienveillance, l'empathie, le goût du travail en équipe et l'altruisme. Pour l'auteur, il faudrait aussi intégrer l'éthique et l'écologie parmi les objectifs de savoir. Interdire partout toute forme de violence ou de coercition, physique, verbale ou mentale, à l'encontre des apprenants. Généraliser l'innovation pédagogique, par exemple les serious games ou la classe renversée, dans laquelle les élèves produisent eux-mêmes leurs cours. Mais, simultanément, il faudrait interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 6 ans. Jacques Attali propose encore de développer la classe hybride, dans laquelle tout apprenant peut choisir d'être, ou moins en partie, en téléenseignement. Il propose aussi de former les adultes au métier de parents et la mise en place d'un code mondial de protection de l'enfance et de l'adolescence. Ce troisième scénario aurait pour intérêt de faire émerger ce que l'auteur appelle l'homo hypersapien, plus sage, plus lucide et plus bienveillant. Ce scénario pourrait aussi, toujours selon l'auteur, conduire à l'émergence d'une hyperconscience qui, selon ses propres mots, ne serait pas infectée par l'esprit du mal. L'hyperconscience ne voudrait pas répandre le pire de l'humanité à travers l'univers et saurait tirer les leçons des erreurs et monstruosités que l'humanité a pu commettre dans le passé.
Finalement, que penser de cet ouvrage ? Quelles sont ses forces et faiblesses ? Et qu'apporte-t-il de nouveau ?
Le propos de l'ouvrage est sans aucun doute empreint d'idéologie et de morale, comme l'illustrent en particulier les propositions du troisième scénario. Dès le départ, l'auteur pointe les groupes sociaux qui, selon ses propres mots, étant les mieux placés dans la hiérarchie sociale, vivent du surplus dégagé par le travail des autres. En bon marxiste, Jacques Attali manifeste sans ambiguïté sa méfiance à l'égard de l'économie libérale et de l'entreprise privée, suspecté notamment de vouloir restreindre les contenus d'éducation à ce qui est strictement nécessaire aux travailleurs pour produire et aux consommateurs pour consommer, et suspecté aussi de vouloir faire de l'éducation un marché. Méfiance répétée également à l'égard des religions, considérant par exemple l'Église catholique comme veillant à ce que personne, sauf ses clercs, ne sache ni lire ni écrire, faisant ainsi obstacle à l'alphabétisation. Et comme pour sacrifier à la mode contemporaine, l'auteur, toutes les trois pages, brocarde l'accès privilégié des élites à l'éducation, et s'indigne des injustices commises, au cours de l'histoire, à l'égard des femmes, ou des maltraitances envers les enfants. En lisant les propositions du troisième scénario, on ne peut que constater la fascination récurrente du courant idéologique auquel appartient l'auteur pour la réglementation, et sa croyance en la possibilité de transformer la nature humaine, et de le faire par le biais de normes. Par exemple, l'auteur aurait pu explorer une approche basée sur l'incitation, allant au-delà de la simple non-rémunération de ceux qui ne veulent pas apprendre. Hormis de rares cas parmi certains régimes autoritaires, l'histoire des sociétés humaines ne semble pas indiquer que l'empilement de règles et de normes sur les populations au fil du temps soit efficace, durable et accepté à long terme. Par ailleurs, le livre n'est pas toujours très bien construit. Certains passages sont répétés à l'identique en deux endroits différents. Par exemple, l'introduction reprend à l'identique les trois premières pages du dernier chapitre. Plus généralement, ce livre n'est pas un ouvrage de recherche académique s'inscrivant dans un cadre conceptuel ou théorique identifié dans lequel l'auteur, sur la base d'une méthodologie claire, tenterait de valider ou de réfuter des hypothèses. Le livre est sans aucun doute érudit, mais il s'agit plutôt d'un livre grand public présentant des partis pris et des points de vue subjectifs, qui peuvent, du reste, paraître parfois d'une surprenante naïveté, comme l'illustrent bien, là aussi, les propositions du troisième scénario. Néanmoins, l'ouvrage est intéressant, et ce à un double titre. D'abord, l'auteur souligne qu'il n'existait pas de synthèse présentant une histoire globale de l'éducation ou de la transmission, la littérature existante se composant pour l'essentiel de monographies par pays, par domaine ou par période. De ce point de vue, « Histoire et avenir de l'éducation » de Jacques Attali comble indiscutablement une lacune. Mais surtout, ce livre soulève des questions stimulantes pour quiconque s'intéresse aux questions d'éducation, que l'on soit philosophe de l'éducation, spécialiste de pédagogie, de didactique, de psychologie, de neurosciences, d'histoire ou de politique de l'éducation, sociologue ou économiste de l'éducation, notamment, mais pas seulement. À ce titre, ce livre mérite sans aucun doute d'être lu.
Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. À bientôt.